18 mai 2021, bienvenue à notre édition du podcast La Relève. Cette semaine, semaine un peu spéciale, Nicolas n'est pas avec nous, mais on a deux invités bien spéciaux. Alexandre Gimbal, journaliste à la LHJMQ et capitaine des Voltigeurs de Drummondville. Xavier Simoneau se joint à nous. Merci d'être avec nous, messieurs.
Salut.
Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Je veux surtout remercier Xavier. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment apprécié de t'avoir avec nous ce matin. Là. Puis je vais commencer en rendant peut-être un peu mal à l'aise Anthony. Là, je vais juste rappeler une petite anecdote. Là. C'est quelque part, il y a environ 3 ans, là, je m'apprêtais à aller célébrer le nouvel an chez un de mes amis qui était en Mauricie. Puis Anthony, quelqu'un d'originaire de la Mauricie, avait besoin de transport pour l'amener dans sa famille. Puis, ça ne me dérangeait pas, mais j'avais un de mes amis qui travaillait pour les Voltigeurs lors d'un match. Donc, j'avais dit, il n'y a pas de problème, je peux t'amener, mais on va aller voir les Voltigeurs. Puis, le premier joueur qui lui avait tapé dans l'œil, si je me souviens bien, là, Joseph Veleno venait de débarquer avec les Voltigeurs. Puis, le premier joueur qui lui a tapé dans l'œil, c'était le numéro 81. Il dit, bon, il me demande tout de suite, mais voyons, Martin, c'est qui ce joueur-là? J'ai dit, c'est Xavier Simoneau, tu vas voir, honnêtement, très, très intense, tu vas l'adorer. Puis, fait que je peux déjà dire que tu es un fan, Xavier, dans le podcast aujourd'hui. Là.
Merci, c'est gentil.
J'avais le compas dans l'œil là, à l'époque et je l'ai encore toujours, là, ceci dit. Xavier, dans les dernières heures, tu as remporté le joueur le plus utile à ton équipe pour la deuxième année de suite avec les Voltigeurs. C'est quand même un honneur qui veut dire beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui te touche, toi, de remporter ce titre-là?
Oui, honnêtement, c'est quand même un titre qui est flatteur, là, d'être le joueur le plus utile à ton équipe. C'est quelque chose qui est honorant pour moi. T'sais, j'avais été en nomination l'an dernier dans la Ligue, puis de recevoir pour une deuxième année de suite avec les Voltigeurs, ça prouve gros. Puis je suis vraiment content, là, surtout avec la jeune équipe qu'on avait aujourd'hui. J'essaie de me considérer comme un modèle pour eux. Puis de recevoir encore une fois cet honneur-là cette année, c'est très flatteur.
T'sais, tu parles de modèle, on le sait, tu es le capitaine de l'équipe, tu es un joueur qui se démarque énormément par ton énergie que tu amènes sur la patinoire. Oui, tu es capable d'amasser des points pour une troisième saison de suite, tu avais au moins un point par match, mais c'est vraiment par ton ardeur au travail que tu te démarques. Qu'est-ce qui fait cette fierté-là chez toi de te donner toujours à 100%, peu importe la rencontre, peu importe la période?
Honnêtement, c'est le fait que je suis un petit joueur, puis on dirait que je sais que si je veux percer un jour, ben, j'ai pas le choix de travailler fort à chaque présence. Puis, si je me présente pas à 100% dans mes matchs, ben je sais que je joue des mauvais matchs. Donc, ça fait partie un peu de mon identité. Puis, quand tu travailles fort aussi, mais ça permet de, quand tu es un modèle, puis un capitaine d'une équipe, mais quand tu vois ton capitaine travailler fort, mais ça monte la voix aussi aux plus jeunes. On est une jeune équipe. Puis, de me voir aller, je pense que ça leur donne de l'énergie aussi. Donc, c'est pas mal ça, mon identité. Là.
Et moi, je me demandais, Xavier, là, par rapport aux Voltigeurs, il y a toujours eu d'excellents leaders, si tu veux, par les années passées. J'ai Gabriel Dumont qui me vient en tête. Toujours eu des bons exemples de vétérans qui montraient la voie à suivre aux plus jeunes. Est-ce qu'il y a quelqu'un, toi en particulier, lorsque tu es débarqué à Drummondville, qui t'a un peu montré la voie ou c'est venu naturellement de devenir justement un leader puis quelqu'un de très impliqué autant au niveau de l'équipe que dans la communauté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré à ton avis?
Honnêtement, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait ça montrer l'exemple, puis de travailler fort, puis peu importe, en dehors de la glace ou sur glace. Mais c'est sûr que quand je suis arrivé à 16 ans, junior, c'était un autre game. Là, tu montes avec des plus vieux, c'est junior majeur, puis tu es capitaine d'une équipe junior, mais ça a tout le temps été un rêve, là, tu le veux pas. Mais je te dirais que mon année de 16 ans, tu sais, les gars comme Adam Moisan, qui c'était comme mon grand frère, il me traînait partout, puis dans les chambres d'hôtel, on était ensemble, il m'a vraiment montré la façon d'être un joueur junior majeur. Mais notre capitaine aussi qu'on avait, Nick Gay aussi, je le remercie aussi parce qu'il m'en a grandement montré des choses aussi. Fait que c'est deux joueurs qui m'ont beaucoup montré. Mais on avait un groupe de vétérans très, très soudés, puis qui montraient la bonne exemple aussi quand j'étais arrivé à 16 ans. Donc ça a été un honneur pour moi de suivre Nick Gay en tant que capitaine. Puis redonner à la communauté, c'est tout le temps quelque chose que j'ai voulu faire. Tu sais, j'ai pas vraiment de modèle qui m'a montré comment faire, honnêtement. Tu sais, j'ai eu de l'aide de l'organisation, parce que l'organisation des Voltigeurs, c'est une organisation qui s'implique beaucoup dans la communauté. Puis ils m'ont aidé beaucoup dans mes projets. Là.
Ouais, parce qu'il faut le mentionner, tu as quand même été nommé joueur humanitaire de l'année dans la Ligue canadienne de hockey, je pense que c'était l'année dernière, là, 2019-2020. Là. Puis, donc, ça t'est vraiment venu naturellement. Il n'y a pas quelque chose que lorsque tu étais plus jeune dans ta famille et tes parents qui t'ont peut-être montré un peu comment redonner peut-être aux gens qui sont un peu plus dans le besoin. Parce que je ne me trompe pas, tu as été porte-parole également d'Autisme Centre du Québec. C'est plein de petites causes. Tu aidais des gens peut-être un peu plus dans le besoin à venir au match des voltigeurs gratuitement. Donc, c'est quand même toutes des belles choses qui sont très, très cool à voir là, au niveau de l'implication. Tu pourrais ne pas le faire et tu le fais quand même. Là, c'est...
Oui, mais vraiment, c'est. Quand j'étais chez moi, aller voir les. Tu sais, j'étais un gars de Saint-André-Ravelin, projet Gatineau. Puis, j'allais tout le temps voir les Olympiques souvent. Puis, moi, mais recevoir un autographe, aller patiner avec des joueurs des Olympiques, aller voir mes modèles jouer, c'est quelque chose qui me fascinait beaucoup. Puis, on dirait, c'est ça de devenir junior majeur, mais à l'inverse, c'est rendu moi qui peux donner à la communauté. Puis, tu sais, j'avais plein de temps, là, je veux dire, on n'a pas de famille, ben, oui, on a de la famille, mais je parle, on a pas d'enfants, on n'a pas de femme, on n'a pas, je veux dire, tu joues au hockey, tu t'en vas à l'école, puis tu as plein de temps devant toi aussi, puis tant qu'il y a mon jeu vidéo à rien faire, mais moi, ça me fait plaisir de donner mon temps à cette communauté-là, puis aux jeunes aussi, donc c'est pas mal ça qui, tu sais, quand j'étais jeune, c'était moi, le petit gars qui voulait avoir un peu de l'attention des joueurs, avoir leur conseil. Puis là, ben, c'est rendu moi à cette salle-ci qui peut donner au suivant. Donc, c'est vraiment ce que j'aime faire. Là.
Je pense que c'est évident. Xavier, tu es quelqu'un qui est proche de ta communauté, quelqu'un qui veut redonner. Par le passé, tu étais impliqué comme spectateur. Cette année, avec la COVID, ça a été un peu plus difficile. Il y avait un peu moins cette proximité-là avec les gens. Est-ce que c'est quelque chose que vous, les joueurs, vous avez ressenti, le fait que vous ne pouviez pas être autant près de vos fans, cette année, ça, il y a une certaine barrière qui devait se créer, malheureusement?
Ben, tu sais, en tant que joueur, tu dis que ouais, on a passé à travers, qu'il n'y avait pas de partisans, mais je vous garantis qu'avoir des partisans, c'est un game changer complètement. Tu sais, ben, je pense que vous pouvez le voir juste dans les séries en ce moment. J'ai regardé l'Angle Nationale, les games d'Angle Nationale, puis c'est comme, waouh, j'ai hâte que ça revienne, tu sais. Puis je regardais justement l'autre fois. Mick Lalancette qui avait remis la fois qu'on est allé en troisième en overtime contre Sherbrooke l'année qu'on y allait pour la coupe, on avait scoré deux goals en overtime qui avait été refusé, mais juste voir la foule qui était là, c'était quelque chose qui me manque vraiment. Puis ce qui me fait un peu je trouve ça de valeur pour les jeunes de 16 ans qui arrivent dans la ligue puis qui n'ont pas la chance de vivre ça tout de suite. T'sais, moi quand je suis arrivé à 16 ans, c'était comme c'était un rêve là, d'arriver, de jouer comme devant des milliers de personnes. C'était quelque chose que j'aimais vraiment. Mais regarde, ça fait partie du COVID, puis on ne contrôle pas encore une fois. Mais oui, on n'avait pas cette proximité-là. Puis même moi aussi, redonnant la communauté en temps de COVID, mais c'est vraiment pas évident parce que on était dans notre petite bulle, on ne pouvait pas voir personne. Donc c'est sûr que ça a nuit aussi. Mais encore une fois, je pense qu'on était. Puis je vais leur dire encore. Encore maintenant, mais la Ligue a fait tellement un travail exceptionnel, puis ça nous a permis de jouer, ça nous a permis de grandir en tant qu'individu aussi, là, pas juste en tant que joueur. On a vécu des affaires qui étaient difficiles à vivre, on les a vécues en tant qu'équipe, puis je pense que c'est une mauvaise expérience, oui, le COVID, mais je pense que mentalement, les gars, on en ressort grandiose là-dedans, puis on a vécu des choses qui n'étaient pas faciles. Mais encore une fois, c'est la Ligue. Merci encore à la Ligue. T'sais, on n'a pas manqué une année complète de développement cette année-là.
Et par rapport justement à la COVID, puis tous les scénarios des bulles, puis honnêtement, la GMQ, on l'a mentionné souvent sur ce podcast-là. Là. Alex, là, un excellent travail la GMQ là-dessus. Là, ça est devenu un modèle un peu partout dans le monde. Là, la WHL a repris le modèle par la suite. Mais est-ce que le scénario de Ville-Bulle a peut-être rendu l'esprit d'équipe plus facile, si tu veux, parce que vous étiez toujours ensemble, il n'y a pas d'échappatoire à aller à gauche, à droite. Est-ce que c'était plus facile de souder les gars, surtout en tant que capitaine? Là, tu es peut-être bien placé pour en parler. Là.
C'est sûr que ouais, on était dans un environnement protégé dans des hôtels. On, je ne sais pas combien on a passé une nuit dans les hôtels cette année, mais c'est assez phénoménal, combien le nombre de nuits. Mais c'est sûr, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. C'était vraiment dans l'hôtel, mais on restait pas dans nos chambres. On allait jouer au ping-pong, on allait jouer au minière. On s'inventait. On revenait un peu dans le temps de jeunesse où est-ce que sais, quand on partait avec nos parents faire des tournois, puis on pouvait jouer au mini hockey, puis faire les enfants dans le même, tu sais, c'était le fun à vivre cette année. Mais, tu sais, oui, le monde peut penser qu'on a eu du plaisir. Oui, on a eu vraiment du plaisir. Sauf qu'il y a un côté aussi que je suis fier des gars, puis je suis fier des gars dans la ligue aussi. Tu sais, mentalement, c'était difficile. Tu sais, quand tu passais deux jours dans un hôtel à un moment donné, c'est dur mentalement. Mais comme tu viens de dire, c'est dur mentalement, mais tu le vis pas tout seul. Puis tu le vis en tant qu'équipe aussi. Fait que, tu sais, de ce côté-là, c'est sûr que l'équipe, tu sais, je pense que c'est une des années où est-ce que la chimie d'équipe était le plus drôle, parce que ça a créé des liens tellement forts aussi. Puis ça a créé aussi des liens avec les coachs aussi. Tu sais, veux pas, t'es avec eux tout le temps. Donc, tu sais, t'apprends à connaître tout le monde en dehors du hockey. Puis ça a eu un côté positif un peu pour nous.
Mais surtout par rapport à votre équipe, là, vous avez quand même d'assez jeunes joueurs. Je vais prendre tes deux partenaires de trio en exemple, là, Justin Côté puis Luke Woodwork. C'est des joueurs, même Maverick Lamoureux. Vous avez beaucoup de gens de joueurs de 16 ou de 17 ans. Donc, j'imagine que cette expérience-là va être encore plus bénéfique parce que tu bâtis un esprit d'équipe davantage pour les années où les Voltigeurs vont être prêts à gagner, que ce soit l'année prochaine ou même dans deux ans.
Ouais, encore une fois, cette année, on faisait partie des équipes les plus jeunes dans cette ligue. En série, à un moment donné, on avait 6-16 ans, puis on avait 1-20 ans. Là, tu sais, je veux dire, c'est extrêmement jeune. Mais tu sais, tu regardes nos résultats cette année, puis encore une fois, je l'ai dit tout le temps, mais tu sais, je suis encore vraiment fier de la jeune équipe puis de la façon que se sont comportés cette année. Parce que, tu sais, oui, moi, je pars, ça faisait 4 ans que j'étais dans la ligue, je vis le COVID, je suis habitué, tu sais, à la ligue de hockey junior majeur. Mais tu sais, c'est pas évident pour un jeune de 16 ans. Tu viens de quitter chez vous, tu t'en viens là, là, on joue-tu, on joue pas, on s'en va dans les autres. Tu sais, c'est vraiment pas évident. Puis, tu sais, de la façon qu'ils se sont comportés, je leur lève mon chapeau. Mais encore une fois, tu sais, c'est une question de chimie d'équipe. Tu sais, on a réussi à faire une chimie d'équipe tellement incroyable qui nous a aidé à passer des moments plus difficiles.
Et malgré tout, vous avez vendu chèrement votre peau à Québec. Là. Oui, vous avez perdu en 3 rencontres, mais les 3 rencontres auraient pu basculer d'un côté comme de l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé? Je ne sais pas si penses-tu que la foule aurait pu faire une différence dans cette série-là? Penses-tu que ça aurait pu être un changement d'avoir cette énergie-là de plus pour performer?
Ben, tu sais, oui, la foule, comme j'ai dit, je l'ai vécu, les playoffs junior majeur avec une foule, c'est un autre monde. Sauf que, tu sais, c'est pas une excuse qu'on a perdu, parce que je pense que ça va d'un côté comme de l'autre. Si on avait eu nos partisans, Québec aurait eu leurs partisans aussi. Fait que, tu sais, ça revient au même pour les deux équipes. Mais, tu sais, comme tu as dit, là, je pense que vous avez vu les matchs, vous avez vu les scores, c'est des matchs qui étaient excessivement serrés. Tu sais, le premier match, j'aurais parlé comme de un côté comme de l'autre. Sigouin a été incroyable de l'autre côté. Il a volé des matchs à lui seul. Faut pas s'en cacher aussi. Québec, c'est une bonne machine de hockey. Eux autres aussi, là, eux autres aussi sont jeunes, mais je pense qu'ils ont une petite année de plus sur nous aussi. Quand tu as 1-20 ans dans ton équipe, mais ça paraît aussi. Quand tu as un gars comme William Dufour qui n'est pas d'alignement aussi, mais c'est un scoreur de crime. Il y avait quasiment un but par match cette année. Je veux dire, ça paraît là aussi. Là, mais encore une fois, c'est pas. Je dis pas que si on avait tout ça, on aurait gagné, mais ça l'aide d'avoir des gars comme des 20 ans, puis un gars comme Dufour. Mais les partisans, oui, c'est sûr que ça change, mais comme je te dis, c'est pas une excuse, parce que d'un côté comme de l'autre, on aurait eu nos partisans.
Mais t'apportes un bon point sur William Dufour. T'sais, vous avez quand même, si on enlève William Dufour, vous aviez peut-être un peu moins de gabarit, si tu veux, de joueur pour être capable de protéger la rondelle puis foncer au filet. William Dufour apportait vraiment cette dimension-là qui a peut-être manqué à quelque part. C'est vrai ce que tu dis, Xavier, ça vous a probablement, ça vous a clairement pas aidé, parce qu'en plus, William Dufour, comme tu dis, avait une très, très belle saison. Je l'avais regardé en début de saison, puis ça allait super bien, ces trucs-là. C'était super bien. Mais pour revenir à la série contre Québec, je me souviens d'avoir parlé à un moment donné avec Alex, qui était dans la bulle, puis je sais qu'il m'avait dit, écoute, Xavier Dimolo est complètement détruit, il prend difficile la défaite. Est-ce que je me trompe, Alex? Mais il me semble que c'était ça. Là, c'est...
Le dernier match, je pense que ça, c'est une équipe qui se fait éliminer, c'est jamais facile. Ouais. T'es-tu remis de cette défaite-là, Xavier?
Ouais. Mais tu sais, c'est plein d'affaires, tu sais, c'est plein d'affaires. Là, c'est oui l'année, c'est oui le futur, c'est plein d'affaires qui sont arrivées au dernier match qui me déçu, mais tu sais, Je trouvais honnêtement cette année, autre que l'année passée, je pense que mes deux dernières années à Drummond, je pense que ça a été mes deux plus belles années de hockey. Je trouvais que la chimie était là avec les boys, puis je trouvais que c'était le fun. Puis, tu sais, l'année passée, mais ça a fini en queue de poisson solide. Là, c'était vous en êtes chez vous, puis c'est bye. Mais cette année, on a vécu tellement d'émotions fortes. À un moment donné, on ne savait même pas si on allait jouer série, puis les gars trouvaient ça dur. Il y avait des gars qui, à un moment donné, c'était difficile. Puis juste d'avoir vécu ça tout le monde ensemble, puis on y croyait. Même le match numéro 3, on faisait face à l'élimination, on tirait de l'arrière. Les gars y croyaient encore. Puis, yeah, c'est juste c'est l'émotion. C'est finir une année de hockey qui a été difficile. Mais puis c'est ça qui est difficile.
Tu parles d'une année de hockey qui a été difficile. Je pense que ta participation au camp d'équipe Canada aussi a fait très mal. Parce que pour les gens qui ne savent pas, tu n'as pas été retranché pour une décision hockey, mais bien pour une décision santé reliée à la COVID. À quel point c'est difficile à avaler de ne pas avoir la chance de te prouver, de ne pas avoir la chance de faire « Hey, je suis capable de jouer ici, mais bien être retranché en raison de la COVID. »
Ben, honnêtement, l'année a tellement été... j'ai pas été repêché. Après ça, je m'en vais là. Ça a été compliqué au début avant que j'arrive là. J'étais vraiment en retard à cause des faux positifs. T'sais, ça a été probablement la plus grosse déception que j'ai eue au hockey. Honnêtement, là, c'est oui de repêchage, mais je savais que le repêchage, c'est un repêchage, puis je sais que je peux suivre plus tard. Mais quand j'ai reçu l'appel de Team Canada, je me rappelle, j'avais des frissons, puis j'avais quasiment une larme aux yeux. J'étais tellement content de recevoir enfin une bonne nouvelle. Ben, pas enfin une bonne nouvelle, mais en blanc. Je viens de me refaire encore ignorer au repêchage, pardon. Puis je reçois ça, c'est comme, OK, ouais, il y a du monde qui croit en moi. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'avais juste une dent en tête, puis j'étais pas sur aucune liste. Mais moi, sur ma liste, je savais que j'étais là, tu sais. Puis je savais, j'y croyais. Puis c'est la manière que ça s'est déroulé encore une fois. Mais c'est on dirait que ça fait partie de ma vie des fois, tu sais, d'être bad-locké un peu. Mais ça m'a vraiment rentré dedans, tu sais. On dirait, je suis revenu ici, j'étais vraiment maudit. J'étais frustré, tu sais, contre tout ce qui se passait. Mais regarde, quand je suis revenu au jeu, c'est des choses que tu peux pas contrôler. Oui, c'est frustrant, mais à un moment donné, regarde, tu peux pas t'arrêter à ça. Puis honnêtement, tu sais, Alex, puis tu me connais bien, puis tu sais, c'est pas la première embûche que j'ai vécue au hockey, puis c'est certainement pas la dernière non plus. Fait que regarde, c'est un rêve de jeunesse. J'y croyais vraiment, puis regarde, mais c'est des choses qui sont arrivées, puis c'est du passé, puis après ça, on move on.
Puis tu sais, les gars, dans le fond, ce que Xavier vient de dire, c'est un peu la raison pour laquelle je voulais qu'on parle de Xavier quand vous m'avez invité, puis vous m'avez demandé les sujets dont je voulais parler. Puis cette invitation-là à Team Canada, pour moi, ça signifiait qu'il était parmi les meilleurs joueurs d'âge junior au monde. C'est ça que ça veut dire.
Équipe au Canada, maintenant.
Ben, Équipe Canada, c'est quand même une des meilleures formations
oui, bien
au monde,
sûr, mais...
les invités. Peut-être le meilleur programme dans tout le monde.
Il fait l'équipe, là.
Non, c'est ça. Il est invité par, bon, disons, une des 4-5 plus grandes puissances de hockey junior au monde pour faire partie d'une des plus grandes équipes de hockey junior au monde. Et puis, au moment où on se parle, il n'y a toujours pas une équipe de la Ligue nationale qui a soit, ben, en tout cas, Xavier, c'est à moins que toi tu saches des choses qu'on sait pas, puis on te mettra pas sur le spot, là, mais il n'y a pas une équipe de la Ligue nationale qui a offert un contrat, il n'y a pas une équipe qui l'a repêché. Je sais que les espoirs sont pas finis, mais moi, ça me fascine parce que quand je regarde le travail de Xavier dans les dernières années, il a été parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue constamment dans les dernières années. Il a été le capitaine d'une équipe qui, cette année, a surpris, je pense, en tout cas, à mon avis, à moi, au-delà des attentes. Les Vulture ont extrêmement bien performé. Il a leadé une équipe hyper jeune. Alors, moi, c'était un des sujets dont je voulais qu'on parle, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas une équipe de la Ligue nationale, une équipe pro, qui a mis un contrat sur la table. Il dit, s'il te plaît, Xavier, signe-là, s'il te plaît. On te veut dans notre équipe parce que c'est le genre de joueur, je pense, qui ferait l'affaire de n'importe quelle équipe pro de haut niveau au hockey. Là.
Mais parlons-en ça, Xavier, parce que quand on regarde un gars comme Raphaël Harvey-Pinard, qui a été choisi par les Canadiens à sa troisième année d'admissibilité dans le repêchage, est-ce que ça te dit pas, OK, ben j'ai encore une chance, c'est encore possible que je sois repêché. Puis là, en plus, Raphaël Harvey-Pinard vient de signer son contrat professionnel avec les Canadiens. Donc, puis c'est un joueur qui se démarque par son énergie sur la patinoire. Est-ce que la comparaison n'est pas là de genre, j'y crois encore, je continue à pousser, ça va m'arriver à moi aussi, j'ai confiance en mes aptitudes?
Ben, c'est sûr que oui, tu sais, j'ai joué contre Raph, c'est une puis c'est une personne qui a vraiment le fun à côtoyer, mais c'est un joueur exceptionnel aussi, qui est quand même similaire à moi. Là. C'est un gars qui travaille quand même fort. Il n'a jamais été repêché, il a réussi à signer. Mais autre que ça, oui, c'est une motivation de le voir signer de la sorte. Mais même si je pense que même s'il n'avait pas signé, j'aurais pas lâché. Pour m'abattre, il faut vraiment que je sois mort. Là, parce que sinon, je suis quelqu'un qui arrêtera jamais. Puis je sais que je peux perdre ça un jour. Mais oui, c'est sûr que Gaga, quand je l'ai vu se faire repêcher, j'étais vraiment content pour lui. Puis encore une fois, oui, j'y crois. J'ai une grosse été devant moi, puis on a déjà recommencé à s'entraîner, puis j'ai juste un but en tête. Là, l'année d'hockey vient de finir, c'est sûr que j'aimerais ça me faire repêcher encore cette année, puis on va voir ce que le futur me réserve.
Je suis curieux de t'entendre, Xavier. Là, ça va être ton âge de 20 ans, là, donc tu vas avoir la possibilité d'aller jouer dans la Ligue américaine, mais également de retourner dans la LHMQ comme joueur de 20 ans. Toi, personnellement, pour ton développement, lorsque tu regardes un peu les discussions à gauche et à droite et ton parcours personnel, qu'est-ce que tu penses qui serait mieux pour ton développement l'an prochain, de retourner dans la LHMQ, peut-être même à Drummondville, où est-ce que vous allez avoir peut-être une meilleure équipe et capable de vous battre davantage, ou de faire le saut probablement dans la Ligue américaine? Qu'est-ce que tu penses qui serait préférable pour toi?
Mais je regarde tous les gars de mon âge là, que je connais bien présentement sont encore en série. Là. C'est les gars de Val-d'Or, les gars de Chico, de ben, whatever. Tous les gars de 19 ans qui ont signé et qui vont sûrement jouer dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, on ne sait jamais, l'année prochaine. Je me dis que c'est sûr que si j'ai un contrat professionnel, je vais le prendre. Puis je sais que c'est une période d'adaptation, c'est sûr, jouer dans la Ligue américaine, mais je pense que je suis prête. Là, c'est sûr que ça serait contre moi de dire « Oh non, je veux jouer au junior parce que je suis pas prêt. » Moi, j'adore les défis. Je sais pas si ça va marcher. Je sais pas. Il y a plein d'adaptations, mais je sais que je peux le faire et je sais que je veux l'essayer aussi. Donc, c'est sûr que si j'ai un contrat pour aller jouer à la Ligue américaine, c'est sûr que je vais le prendre sans hésiter. Là.
Et je trouve certain, messieurs, si jamais il fallait que Xavier revienne dans le junior, il va être soit un élément très important des Vulture de Drummondville ou soit un élément très en demande pour les autres équipes.
Merci beaucoup, Xavier, de ta présence au podcast La Relève. Personnellement, en mon nom et en celui de Martin et d'Alexandre, je te souhaite une bonne fête parce que ce sera ton anniversaire demain.
Yes.
Tu auras 20 ans, donc joyeux anniversaire. Puis merci beaucoup de t'être joint à nous aujourd'hui, c'est très apprécié.
Merci à vous autres, les gars. Passez une excellente journée.
Merci, bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup, bonne journée.
Très intéressant cette entrevue avec Xavier Simoneau. On le voit que c'est un jeune qui est focus sur ce qu'il veut, qui a beaucoup d'énergie, qui a de l'entrain et qui ne se laisse pas abattre à la première embûche. Puis moi, honnêtement, c'est un trait de caractère qui m'a toujours fasciné puis qui est toujours la première chose que je remarque chez un joueur de hockey. Celui qui est capable de se lever quand ça compte. Puis je pense que Xavier Simoneau, en étant capitaine, en ayant remporté le joueur le plus utile à son équipe pour une deuxième année de suite, c'est quelque chose qu'il prouve, qu'il est capable de faire, de mettre son équipe sur ses épaules. Alors, je le remercie de s'être joint à nous là aujourd'hui.
Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ces discussions-là, là, on aurait pu lui demander si ça lui tentait de jouer avec les Canadiens. Si les Canadiens lui avaient fait des offres, puis il nous aurait pas répondu, puis ça aurait été tout à fait normal. Mais ce que je voulais explorer un peu plus dans cette entrevue-là, puis je pense qu'on l'a très bien fait, les gars, c'est de voir la personne qu'il est, voir quel type de... Comment il peut avoir du caractère dans les différentes embûches qu'il obtient dans sa vie. Le fait qu'il a été retranché avec l'équipe Canada Junior. Là, on a abordé la situation d'être un joueur de 20 ans ou se retrouver dans la Ligue américaine. Là, de la manière qu'il l'a abordé, tu peux le lire comme lui, c'est un gars de défi. Lui, il veut toujours avoir ça le plus difficile possible. Il veut toujours être au plus haut niveau pour se dépasser continuellement. Moi, ce que je viens d'apprendre, je le savais un petit peu, là, mais ça me le confirme, c'est que Xavier Simoneau, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment énormément de caractère. Ça va lui prendre beaucoup, beaucoup de... Ça va lui prendre quelque chose d'extrêmement difficile pour le décourager d'atteindre son rêve, c'est-à-dire de jouer dans la LNH. Là.
Puis c'est un joueur qui est vraiment le fun à voir jouer. Là. C'est dommage un peu pour les spectateurs qui ne pouvaient pas le voir de leurs propres yeux. Tu es obligé de le voir à travers la web diffusion ou à la télé, etc. Là. Mais Xavier, c'est un joueur flamboyant. Là. Dès qu'il saute sur la glace, tu sais qu'il est sur la glace. Là. Alors, c'est vraiment... C'est pour ça que je voulais l'inviter, parce que non seulement c'est une bonne personne, c'est un joueur d'hockey spectaculaire, puis je lui souhaite vraiment le meilleur pour l'avenir, parce que je pense qu'il le mérite.
En tout cas, merci Alex de l'avoir invité. Là, c'était très intéressant. Puis d'ailleurs, on est content que tu sois avec nous parce que c'est les séries présentement dans la LHJMQ. On le sait, c'est présentement les demi-finales. Bon, Charlottetown affronte Victo. Cette série-là n'est pas encore commencée. Du côté de Val-d'Or, on mène 1-0 présentement sur les Sags. Puis je pense qu'un joueur qui retient l'attention du côté de Val-d'Or, c'est Justin Robida. Tu sais, c'est un joueur qui est à surveiller. On le sait, il sera repêché lors du prochain encamp en juillet. Et il augmente sa valeur là, dans les séries actuellement.
Oui, il est vraiment bon. Puis, tu sais, il faut le voir, c'est un joueur qui est à sa deuxième année, qui est dans une équipe toute étoile, là, une équipe qui a tout misé sur cette année. Il y a beaucoup, beaucoup de grands, de très bons joueurs dans cette équipe-là. Il se démarque, là, ça, c'est absolument clair. Quand il est sur la glace, on le voit. Les points sur le tableau sont là également. Il est vraiment en train de se faire un nom. Et pour ceux qui pourraient être inquiets par rapport à sa grandeur, parce que c'est pas un joueur de grande taille, là. Peut-être que ça pourra en rassurer quelques-uns de voir comment il performe, non seulement au sein d'une équipe étoile, mais en séries éliminatoires sous pression. Il est un élément plus qu'important d'une équipe qui aspire légitimement à la Coupe.
Moi, ce qui m'impressionne énormément avec Justin Robida, là, son sens offensif pour le prochain niveau, je suis moins certain, là. J'ai encore mes doutes. Je vais attendre de voir, si tu veux, l'an prochain ou peut-être même dans 2 ans pour savoir s'il va être capable de s'imposer à ce niveau-là. Mais défensivement, le positionnement, comment il fait de la couverture défensive pour être continuellement en train d'aider ses coéquipiers, là, écoute, j'ai rarement vu ça. Il y a 17 ans, là, c'est un des plus jeunes joueurs, non seulement de son équipe, mais dans la Ligue. Là. Puis je vous le dis, il joue déjà comme un vétéran de 5 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il est extraordinaire. Encore hier, là, contre les Saguenayens, là, le seul joueur qui lui a peut-être donné du fil à retordre, si tu veux, c'est Dawson Mercer. Et je pense, Alex, que t'es capable de nous le confirmer. Il y a pas mal de joueurs qui ont de la difficulté contre Dawson Mercer. Mais pour le reste, là, il était toujours super dominant. Il n'y a aucun point sur la fiche hier. Mais sur 2 débuts, c'est directement causé par Justin Robida parce qu'il... soit qu'il enlève la rondelle à l'adversaire ou qu'il provoque des revirements qui créent un revirement puis ça se retrouve avec un surnom de l'autre côté. Le premier but des Foreurs hier, c'était ça. Il a fait un très, très gros repli défensif, a volé la rondelle à son adversaire, a relancé pour une occasion 2-1, puis Nathan Légaré a repéré Doucet de l'autre côté. Ça vous en dit énormément à quel point il est important. Puis je vous le dis, les gars, je pense qu'au repêchage de la LNH, le prochain repêchage, il pourrait sortir pas mal plus tôt qu'on pourrait le penser, justement parce que tous les attributs de professionnel et de leader, tu n'as pas à lui montrer, il les a déjà. Pour un joueur de 17 ans, là, c'est extraordinaire parce que c'est probablement une des choses que les jeunes à cet âge-là ont le plus à travailler, si tu veux.
Ouais, j'ai eu la chance de côtoyer les Foreurs assez souvent cette année. Là, j'ai été en contact avec eux régulièrement. Puis, tu sais, le nombre de fois où j'ai parlé avec Daniel Renault, l'entraîneur-chef de Justin Robida, il m'a répété à quel point, pour appuyer ce que tu dis, Martin, c'est un pro. Là. C'est déjà un pro. Il pense comme un pro, il se prépare comme un pro. C'est un gars qui a la tête au hockey, qui a une bonne tête sur les épaules aussi. C'est un gars posé, en tout cas, au contact que j'ai eu avec lui. Puis je pense qu'il va être un élément intéressant à regarder pour plusieurs équipes de la Ligue nationale. Et peut-être qu'il va surprendre et sortir un peu plus haut que ce que les listes indiquent présentement. C'est un joueur qui peut aspirer à une belle carrière, je pense.
Si vous aviez une projection à faire, là, vous miseriez sur quelle ronde environ pour Justin Robida?
C'est difficile à dire. Je pense que moi, je vois juste les joueurs de la LHJMQ. Fait que j'ai vraiment de la difficulté à évaluer ce qui se passe avec les autres. Puis je pense que je suis un peu, comment dire, je suis un peu biased d'une certaine manière, là. Je suis biaisé, mais je pense qu'il pourrait peut-être surprendre puis se glisser peut-être en deuxième ronde. Je sais pas, peut-être. Ça pourrait être haut. Je sais pas, peut-être. C'est difficile à dire pour moi.
Toi, Alex, tu ne peux pas te mouiller. Moi, je peux. J'ai regardé beaucoup, beaucoup d'espoir cette année, donc je peux pas mal te dire où Justin Robida pourrait être classé. Et je vous le dis, en raison de son style, en raison du fait qu'il joue déjà comme un pro, moi, je pense qu'il y a des équipes qui vont tomber en amour avec ce joueur-là. Et moi, je pense que c'est assurément un espoir de deuxième tour. Minimum deuxième tour. Parce qu'au niveau défensif, au niveau du côté professionnel, il n'y a rien à lui montrer. Je vous le dis, il y a des équipes dans la Ligue qui adorent ce genre de joueur-là. Et même, je ne pense pas qu'il va sortir le premier tour, mais s'il sortait premier tour, je ne tomberais pas en bas de ma chaise. En raison de ses attributs de défensifs, en raison de ses capacités défensives, là, c'est impressionnant à quel point il joue là, pour un joueur de 17 ans, honnêtement.
C'est un repêchage, vous le savez, c'est l'essentiel même de votre podcast. Là. C'est un repêchage cette année qui va être assez compliqué parce que, bon, c'est ça, c'est une année tellement atypique dans le monde du hockey. Les joueurs de la LHMQ ont été, d'une certaine manière, surexposés par rapport aux autres joueurs. Puis moi, j'ai toujours le nez collé dans la vitrine des gars de la LHMQ, mais je peux te dire que je peux te dire une chose, c'est un gars qui a une tête sur les épaules, qui joue du très gros hockey. Il est à un point par match cette saison. Il est encore à un point par match en série. Et tu disais, non, il n'a pas récolté de points dans le dernier match. Non, mais il est plus 3. Et tu sais, c'est pour ajouter à ce que tu disais tantôt, que c'est un joueur responsable. C'est un joueur assez complet. Puis, comme je disais, je pense qu'il peut aspirer une belle carrière dans le hockey professionnel.
C'est quand même dommage quand tu y penses, parce que là, si je me fie au dire de Marty, devrait être repêché dans le bout de 45 là, environ, le plus ou moins, là, en deuxième ronde. Mais il sera probablement pas repêché devant des partisans. Puis ça, c'est quand même triste de penser que ces jeunes joueurs-là, puis je le comprends qu'il n'est pas le seul, mais pas du tout, mais ils ne seront pas repêchés de façon conventionnelle. Et Alex, tu me disais hors d'onde, son père non plus, Justin Robidoux, n'avait pas été repêché de façon conventionnelle.
Moi, je vais vous révéler quelque chose qu'on a sur entrevue et qu'éventuellement on sortira dans nos séries de reportages pour les entrevues, mais je parlais avec lui puis je disais, tu sais, est-ce que ton père, il trouve ça un peu dommage que tu puisses pas être repêché, tu sais, comme dans un grand environnement, Arena? Il dit oui, d'autant plus que mon père, il a pas été repêché lui non plus dans un aréna à l'époque et tout ça. Même, il me racontait que son père a été repêché un peu comme Pierre Lambert dans l'ancien compte. Il disait, et je vous raconte l'anecdote que lui m'a raconté, il dit, mon père, il s'en allait jouer du hockey dans une ligue de garage avec des amis, là, carrément, là, puis il est dans son auto, puis il a appris à la radio qu'il était repêché par la Canadienne de Montréal. Fait que ça aurait été le fun, je pense, pour lui de le vivre d'une certaine manière à travers les yeux de Justin dans un contexte de repêchage qu'on a connu dans les dernières années, là, excluant l'année passée. Ce ne sera pas le cas, mais je pense que les deux quand même vont être fiers. Et puis, j'ai demandé à Justin, je dis là, tu sais, ton père est sorti pas mal plus loin dans le repêchage. Toi, tu es sorti, possiblement, tu vas sortir plus haut que ton père, là, peut-être deux, troisième ronde. Là. Son père, lui, c'est un choix beaucoup plus loin. J'ai dit, est-ce que tu penses que tu vas le niaiser un peu avec ça? Il dit, ben, je vais peut-être le niaiser un peu, mais il dit, je vais prendre mon gaz égal parce qu'il a quand même joué pas 1000 matchs dans la Ligue nationale. Fait que ça, il peut me le ramener dans la face.
Ah, ça, c'est très bon. Excellente anecdote, Alex. Bon, j'en parlais, oui, Val-d'Or contre Chicoutimi, mais aussi Charlottetown contre Victoriaville. Et du côté de Victoriaville, il y a un joueur qui est déjà sous l'emprise de l'Avalanche du Colorado, Alex Bocage, qui fait très bien. Et Alex, c'est un joueur qui, toi, te surprend par son tir des poignets qui est foudroyant.
Ouais, un des meilleurs tirs dans la ligue. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Puis même tu sais, des fois, sachant que j'allais vous parler, j'ai parlé à quelques joueurs dans la ligue pour dire, coudon, est-ce que mon impression, c'est vraiment la bonne? Y a-tu vraiment un des meilleurs tirs dans la ligue? Et puis, je vais citer un de ses coéquipiers que j'ai texté. Il m'a dit, il y a assurément un des trois meilleurs tirs dans la ligue. C'est incroyable la vitesse à laquelle il décoche. Il y a peut-être un peu justement de Joe Sakic dans le nez là, parce qu'il peut il peut libérer la rondelle à une vitesse assez folle. Je pense que ce joueur-là a des chances légitimes un jour de jouer dans le hockey professionnel, de jouer peut-être même dans la Ligue nationale. C'est un gars qui est capable de produire offensivement. C'est un champion de la Coupe Memorial. Hein. Lui, il a fait partie de une des meilleures équipes de l'histoire du hockey junior canadien avec les Huskies de Rouyn-Noranda il y a quelques années. Jusqu'à cette année, finalement, il était avec Rouyn. Et puis là, ben, il est une des pièces maîtresses de l'attaque assez impressionnante des Tigres de Victoriaville. Ils ont vraiment un punch offensif assez hallucinant. Les Tigres et Alex Bocage est une des pièces maîtresses de cette attaque-là.
Mais je suis curieux de t'entendre, Alex. Tu parlais avec les autres joueurs qui te disaient qu'il avait assurément l'un des trois meilleurs lancers de la LHGMQ et c'est, qui étaient les autres noms qui revenaient? Est-ce que tu as une idée ou est-ce que
ils m'ont pas donné de nom, mais je peux te dire qu'il y en a au moins un autre qui est en série présentement, qui a tout un lancé, puis il s'appelle Nathan Légaré. Lui aussi, il est capable de décocher une vitesse assez folle. Lui, c'est un espoir des Penguins de Pittsburgh, un choix de troisième ronde. D'ailleurs, lui, c'est intéressant parce qu'il était initialement prévu peut-être pour sortir en deuxième ronde. Il avait glissé un peu pour sortir finalement en troisième ronde. Et lui, il a été repêché l'année de Samuel Poulin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, mais Nathan Légaré avait connu tout un camp d'entraînement, avait même signé son contrat professionnel avant Samuel Poulin. C'est assez rare qu'on voit ça, là, un choix de troisième ronde qui est signé avant ton choix de première ronde, mais c'en a un autre là, qui a tout un lancé, Nathan Légaré. Puis on l'a vu hier dans le match, dans le premier match contre les Sags, en échappé, il est capable de...
Ça a été un but important en plus parce que c'était 2-2 à ce moment-là. Puis les Saguenayens, honnêtement, ont joué quand même un bon match, mettaient de la pression sur les Foreurs. Puis soudainement, Légaré se retrouve en échappée, puis bang, un gros lancé. Là. Ça a été un but assez important. Puis je pense que Légaré, c'est ce qui est plaisant à voir dans son style de jeu, c'est que lui, si le moment devient important, il va rehausser son jeu d'un cran. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et, personnellement, c'est ce que j'ai toujours adoré de Nathan Légaré. Il y a un joueur qui a déjà joué pour le Drakkar de Bécomo. Souvent, le Drakkar, la Côte-Nord, là, c'est un... faut que tu joues au niveau physique. Faut que tu te présentes match après match parce que les gens de la Côte-Nord ne l'acceptent pas nécessairement si tu prends des journées de congé. Mais lui, il a déjà cet ADN-là, si tu veux. Là. Ça fait quelque chose pour lui de très important pour se retrouver au niveau professionnel et présentement en série également, là, on ne se le cachera pas, ça bénéficie aux Foreurs. Là.
C'est un gars qui a de la hargne, c'est un gars qui n'a pas peur de salir l'année, il a un bon tir. C'est un gars aussi qui a amélioré beaucoup son coup de patin. C'est un joueur assez complet, il est très bon en protection de rondelles également. Enfin, c'est un joueur que les Penguins, je pense, ne regretteront pas d'avoir repêché.
Mais tu regardes les Penguins de Pittsburgh, ils ont des joueurs comme, sans comparer les styles, là, mais ils ont des joueurs comme Zach Aston-Reese, comme Teddy Bluger, Brandon Tanev, des joueurs de 3 ou 4e trio qui vont justement créer de l'échec avant, qui vont gagner des rondelles en fond de patinoire, puis créer des chances de marquer. Mais Nathan Légaré, comme Alex, tu viens de le mentionner, là, en protection de rondelles, c'est probablement l'un des meilleurs joueurs présentement dans la LHGMQ. S'il est capable, et je pense que cet aspect-là se transpose très bien à la LNH. Ça va en faire un excellent joueur, j'ai l'impression, de troisième trio, je pense. Parce que justement, très, très bon en protection de rondelles, très fort. Et de temps en temps, en raison de son excellent lancer, il va être capable également de se démarquer et de battre les gardiens adverses. Peut-être pas pour marquer 30 buts dans la LNH, là, mais un bon 10 à 15 buts, là, je pense que ça peut être très, très bon. Et écoutez, les gars, 30 points dans la LNH en tant que joueur de troisième trio, ben écoutez, c'est mission accomplie, c'est... Ce serait très bien, honnêtement, dans le cas de Nathan Légaré.
Bon, on verra, tu sais, dans le fond, je lui souhaite sincèrement d'atteindre la Ligue nationale comme je le souhaite à tous les joueurs qui jouent dans la LHGMQ. Mais bon, c'est un joueur qui a beaucoup d'assets intéressants, si on peut dire ça comme ça.
Ouais. Je me souviens que Corey Pronman, là, parmi les experts au repêchage, là, Corey Pronman de The Athletic, si je me souviens bien, l'année du repêchage de Nathan Légaré, là, je pense qu'il l'avait premier tour. Il l'avait quelque part comme 30, 31 ou 32. Il adore justement les joueurs hargneux de la sorte, là, Corey Pronman. Sans dire à quel point là, il y a certaines personnes experts du repêchage qui adorent ce qu'ils voient de Nathan Légaré.
Là. Et d'ailleurs, Nathan Légaré, là, si je ne me trompe pas, joue avec Justin Robida régulièrement. Alors, un peu, ben, presque tout le temps, en fait, là, ils jouent sur le même trio. Puis les trios du côté des Foreurs sont assez stables, là, du moins, à ce que j'ai pu constater. Quand tu as un joueur intelligent comme Justin qui peut remettre la rondelle à un marqueur naturel comme Nathan Légaré, ben, ça fait un duo assez dangereux.
Écoute, Alex, parlons-en de la formation des Foreurs. Là, tu sais, je pense qu'on en a déjà parlé il y a environ un mois. Là, est-ce que les Foreurs sont l'équipe favorite pour remporter la Coupe du Président? Puis là, tu me parles des trios, j'ai pas le choix de te lancer là-dessus. Écoute, je regardais hier le match, là, les quatre trios. Là, sur le premier trio, tu as Poulin et tu as Jacob Pelletier. Tu as Légaré et Robida sur un autre trio. Tu as Marshall Lessard et Justin Ducharme, qui est probablement un des meilleurs joueurs de 20 ans dans la Ligue, qui se retrouve sur un trio avec Jérémy Michel. Là, sur le quatrième trio, tu retrouves des joueurs comme Jacob Gaucher. Jacob Gaucher, là, c'est pas un joueur de quatrième trio. C'est simplement parce qu'il est avec une excellente équipe, mais à quel point il y a une autre équipe? Est-ce qu'on peut déjà donner la coupe au Foreur, Alex? Moi, il me semble que j'ai de la misère. J'ai du mal à avoir une équipe supérieure à ça. Là.
Je te dirais certainement pas ça parce que, première des choses, la raison pour laquelle on joue les matchs, parce qu'on n'est pas sûr de qui va gagner. Sinon, on ferait simuler la saison à NHL et on donnerait la coupe en personne. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre les Sags pour battus d'avance. Ils ont une excellente équipe. Dawson Mercer, c'est un des meilleurs joueurs du circuit, assurément. Certaines personnes me l'ont comparé à un gars comme Patrice Bergeron. Je pense que Dawson Mercer, c'est un gars qu'on va voir jouer dans la Ligue nationale. Ils ont un gardien dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un excellent gardien dans le circuit courtois, c'est Alexis Schenk. Et c'est un gars qui peut faire les arrêts, peut faire la différence. Ils ont une défense qui a beaucoup de sens là, à Chicoutimi. Tu as un gars comme Louis Crevier là, qui est repêché dans la Ligue nationale également. Non, je pense pas qu'on puisse donner la coupe d'avance. D'ailleurs, on l'a vu hier dans le début du match, c'était les Sags qui dominaient. Bon, les Foreurs sont venus de l'arrière. Peut-être que les Foreurs n'ont pas connu le début qu'ils auraient espéré. Mais moi, je m'attends, sans faire de prédiction, que cette série-là va être longue.
Non, je suis d'accord. Puis Dawson Mercer, honnêtement, là, Alex, là, je le sais, là, je l'adore. Je sais que tu l'adores aussi, là, probablement plus que moi encore. Là. Mais j'ai regardé dernièrement, je l'ai vu jouer contre les Remparts, notamment, lors de la dernière série, puis je l'ai revu hier. Puis honnêtement, tu sais, il y a des joueurs, là, que tu le sais, qui vont jouer dans la LNH, puis ils se retrouvent dans la Ligue junior majeure du Québec à 18 ou 19 ans, puis ils ont une ou deux coches de plus que tout le monde au niveau de l'exécution, de la lecture de jeu. Puis Dawson Mercer, là, c'est ça, c'est... Il n'y a pratiquement aucun jeu, là, continuellement en train de faire la bonne chose. Il anticipe les jeux 3 ou 4 secondes d'agence, puis ça s'ajuste très rapidement également. Je ne sais pas si Anthony, tu as regardé la séquence que je t'ai envoyée.
Ouais, j'ai ça pas loin, je vais te mettre ça, Marky.
Un de ses buts, justement, lorsque j'ai regardé un match contre les Remparts de Québec, il a marqué deux buts. Son deuxième but, là, vous allez voir son deuxième but. Là. Regardez ce qu'il fait sur la séquence. Il va rater une chance de marquer, là, le gardien va faire l'arrêt, mais il reprend la rondelle. Regardez ce qu'il fait. Regardez le défenseur Rodzinski. Il voit qu'il se recule davantage pour protéger l'autre option de passe. Mais lui décide, je vais lancer sur le patin, puis marquer. Ça, c'est de l'intelligence pure, les gars. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Puis sans dire long à quel point ce joueur-là a, dans le gage du hockey IQ, là, c'en est le meilleur exemple.
Moi, je pense qu'on va le voir éventuellement avec les Devils. Là. C'est un choix de première ronde dans la Ligue nationale, Dawson Mercer. C'est un joueur hyper intelligent. C'est une excellente personne aussi. Là. Un joueur qui est tellement gentil, messieurs. Là. C'est incroyable. Et non, c'est un joueur super intelligent et c'est une des pièces maîtresses de l'attaque des Sags. Puis même si les Sags, on disait qu'ils allaient all-in l'année passée, il ne faut pas les compter pour battu cette année. Tu sais, Hendrix Lapierre, c'est lui aussi un choix très haut dans la Ligue nationale qui est un très beau potentiel de hockey professionnel. Faut pas oublier un gars comme Samuel Hood aussi, qui lui a été repêché par le Canadien il y a quelques années, qui a un point par match, qui est le leader des Sags cette année. L'ajout de Pierrick Dubé aussi a fait du bien aux Sags, a ajouté un peu de punch à l'attaque. Faut vraiment pas les compter pour battu d'avance. Et comme je dis, ben ça peut jouer devant le filet aussi entre deux bons gardiens, Jonathan Lemieux du côté des Foreurs, puis Alexis Schenk du côté des Sags. J'invite les gens à regarder cette série-là parce que moi, je m'attends à tout un feu d'artifice. Je m'attends à ce que cette série-là aille jusqu'au bout. Puis oui, les Foreurs ont une bonne attaque. Oui, les Foreurs ont une bonne équipe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont même être en finale lors de la prochaine ronde.
Et tu parlais de Louis Crevier. Et moi, ça me renverse de voir à quel point ce joueur-là s'est amélioré au cours de la dernière année et demie, si tu veux. Moi, je vais être bien honnête avec toi, Alex, c'était pas un espoir qui m'emballait tant que ça. Oui, il était très gros, là, mais je n'étais pas certain nécessairement de ses chances de jouer dans la LNH. Je n'étais pas un de mes préférés lors du dernier encamp en 2020. Là. Mais il s'est tellement amélioré là, depuis. aussitôt qu'il est débarqué cette saison avec les Saguenayens, en partant, il a été dominant. Là, davantage, il se portait davantage à l'attaque. Son coup de patin est quand même assez bon. Puis au niveau du gabarit, là, on parle quand même de 6 pieds 8 pouces. Là, donc, c'est très difficile de le tasser. Et honnêtement, depuis le début de la saison, sa progression est vraiment, vraiment bonne. Honnêtement, là, je me demande si c'est pas un... ça pourrait être un excellent coup, honnêtement, des Blackhawks de Chicago. Là, le recruteur au Québec, c'est Alexandre Rouleau. Là. C'est... plus ça va, plus que ça pourrait être un choix qu'on va considérer peut-être comme un vol là, dans les prochaines années. Là. J'ai bien hâte de ce que ça peut donner.
Là. Parlons-en, Marty, parce qu'il y a eu la polémique là, dans les derniers jours du passé de Québécois là, avec le Canadien de Montréal. Et bon, t'as pas dans un verre d'eau, là, si vous voulez mon avis. Là. Mais le repêchage de Luc Crevier, oui, il a été choisi par les Blackhawks de Chicago, mais c'est un choix du Canadien de Montréal que le Canadien a décidé d'échanger aux Blackhawks. Et les Blackhawks sont venus piger dans la cour de la LHJMQ. T'sais, je comprends que c'est peut-être, tout comme toi, un espoir qui n'emballait pas le Canadien, mais rendu au septième tour, pourquoi ne pas donner la chance à un gars comme Luc Crevier quand il y avait un certain potentiel, surtout par son gabarit?
Bon, je suis d'accord, ça aurait pu être une option. On a eu Xavier Simoneau tout à l'heure. Xavier Simoneau au septième tour, ça aurait été une très belle option également pour les Canadiens de Montréal. Et là, au lieu de se battre, parce que je suis convaincu qu'il y a plusieurs équipes en ce moment qui sont intéressées à ces services, là, ben pourquoi les Canadiens n'auraient pas pu miser? Puis au septième tour, les gars, il n'y a pas énormément de joueurs qui vont de toute façon évoluer dans l'LNH. Donc, aussi bien prendre une chance avec un joueur qui a un attribut exceptionnel, et Luc Crevier, il faut se l'admettre, c'est un joueur de très gros gabarit, c'est un défenseur. Il y a un prototype de Zdeno Chara, sans comparer je veux pas dire que Luc Crevier va avoir des saisons de 50 à 60 points dans l'LNH, là. Mais en raison du gabarit, il y a quand même quelque chose d'intéressant à polir et à travailler. Ça aurait pu être une option. Maintenant, un peu comme tu dis, là, tempête dans un verre d'eau, je ne veux pas non plus lancer la pierre nécessairement aux Canadiens de Montréal. On s'entend, ils ont beaucoup, beaucoup d'espoir dans leur banque. Là. Ils ont beaucoup de joueurs à re-signer. Puis, et tu peux dire à quelque part, est-ce qu'on veut vraiment repêcher un joueur pour, alors qu'on est à peu près certain qu'on ne lui offre pas d'offre de contrat?
Ouais, mais tu sais, je veux dire, le contrat, t'as pas 60 jours pour le donner, là, t'as quand même 3 ans. Tu sais, il n'y a rien qui presse, là. Je veux dire, tu peux repêcher le joueur, puis s'il continue à se développer, surtout pour un défenseur de 6 pieds 8, je veux dire, c'est extrêmement difficile de juger le talent d'un joueur à 17 ans, 18 ans. Laissons-le se développer. Est-ce qu'il est capable de prendre un peu plus de mobilité? Est-ce qu'il est capable d'améliorer son patin? Ce qui va lui permettre d'être. Parce que souvent, le prototype du gros bonhomme, c'est qu'il va être en retard. Mais tu sais, si on voit que y a des belles choses, avec un choix de septième tour, moi, ça m'avait un peu chicoté, ça. Et en plus, pour tourner le couteau dans la plaie, les Blackhawks choisissent au Québec avec ce fameux choix-là. Donc, je sais pas. Des fois, j'ai un petit peu la misère à suivre le Canadien à ce niveau-là.
Mais bref, c'est sûr que Luc Crevier, c'est une pièce importante de la défense des Sags. Puis pour ajouter à ça, ben, tu as aussi un gars comme Artie Miniassev, qui est un choix des Sharks de San Jose aussi, qui fait bien, qui produit encore à chaque année un peu plus offensivement. Non, les Sags à la défense ont quelque chose d'intéressant qui est non négligeable.
On parlait de piger dans la cour du Québec, puis tout à l'heure, on avait le capitaine de Drummondville, mais je vous transfère au capitaine de l'Armada. Là. Luke Hanneman a marqué l'histoire, littéralement, de la Ligue nationale de hockey en devenant le premier joueur de l'histoire du Kraken de Seattle. Ça, c'est cool, hein? Ça, c'est honnêtement, c'est un fait d'arme qu'il va pouvoir se vanter avec ça toute sa vie. Donc, Luke Hanneman qui devient un membre du Kraken de Seattle. Alex, est-ce que tu peux nous dresser un petit portrait là, de Luke Hanneman et ce à quoi on va s'attendre avec le Kraken?
Ben, avant de répondre à ta question, je veux juste vous raconter un petit quelque chose. J'ai fait un behind the scenes cette année avec Luke Hanneman. Et je vérifiais les stats sur YouTube et la pente a fait ça comme ça la journée la journée où Luke Hanneman a signé. Les chiffres ont explosé sur notre chaîne YouTube.
C'était excellent d'ailleurs, je l'avais écouté et c'était très bon aussi.
Ah, t'es bien gentil. Écoute, on l'a suivi dans sa routine de journée. On le suit vraiment là, du déjeuner jusqu'au repas de fin de match, après les entrevues de match, etc. Là, c'est vraiment un gros behind the scenes. Les gens veulent aller voir ça, je pense que c'est bien intéressant. Puis pour répondre à ta question, Anthony, quel genre de joueur c'est? C'est un joueur super complet qui a qui a beaucoup, beaucoup de. Qui fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses. C'était le leader de l'Armada cette année. C'est un gars qui est capable de produire offensivement, qui est responsable défensivement. Et on me disait qu'une de ses bonnes qualités, c'est le fait qu'il est un leader. Incontesté, les gens aiment être autour de lui, les gens aiment s'entourer de lui. Au contact que j'ai eu avec lui, c'est aussi une excellente personne. Et puis j'étais tellement, tellement content parce que c'est un sujet qu'on a abordé, lui et moi, hors d'onde. Je lui demandais, puis c'était quoi de voir que les Hurricanes, parce que lui, c'était un choix des Hurricanes de la Caroline, puis ne l'avait pas signé. Évidemment, il était déçu, mais perdait pas espoir. Puis j'étais content là, de voir que le Kraken ben, faisait de lui leur premier joueur. Et ben, quand on regarde qui est à la tête du Kraken, c'est peut-être pas si surprenant que ça non plus.
Mais je me souviens, Alex, là, pour avoir regardé ton accès privilégié à Lou Kenman, là, tu parles du côté leadership. Moi, je crois que c'était la première chose qui ressortait de ton travail. Là. À un moment donné, il y a une séquence où Lou Kenman se permet de te présenter tous ses coéquipiers qui sont à sa table. Là. Il y a Christopher Ortiz, il y a un peu toutes sortes de joueurs comme ça. Mais tu vois que la camaraderie est bonne. Tu vois qu'il semble vraiment rassembleur et que les gens semblent l'adorer. Là. Il y avait des espèces de rituels d'avant-match avec Mathias Laferrière, notamment. Là. Et ça, ça en dit long. Ça montre justement que c'est quelqu'un avec du leadership et quelqu'un qui va être rassembleur dans un vestiaire. Puis, je le sais, là, le fameux jargon typique. Oh, c'est bon, on a seulement appris un joueur parce qu'il est bon dans le vestiaire. Il n'est même pas capable de transporter la rondelle. Mais ça demeure quelque chose d'important. L'esprit d'équipe dans un vestiaire, c'est excessivement important. C'est ce qui fait en sorte que tes joueurs sont démotivés ou au contraire sont super motivés et qu'ils vont en donner 3 ou 4 fois plus que ce qu'ils devraient. Moi, je trouve que c'est super important. Et pour revenir à Lou Kenman, moi, lors de son année de repêchage, c'était un de mes coups de cœur. C'était un de mes choix préférés pour justement les rondes 3, 4 ou 5. Parce qu'il avait un bon coup de patin. Il était toujours très tenace en couverture défensive là, pour contrer les adversaires, etc. Puis, je suis retourné voir un petit peu au cours des derniers jours là, les raisons pour lesquelles les gens aimaient peut-être un peu moins Lou Kenman. Là. Son année de repêchage, les gars, il pesait 143 livres. Ça, c'est pour jouer dans la LNH, c'est quand même assez léger, merci. Ça, heureusement, là, il a pris du coffre et ça reste un joueur de 6 pieds. Là, je pense qu'il affiche 168 livres là, pour avoir vu sur le top de la LHMQ. Là. Donc, moi, je trouve que c'est un excellent coup là, du Kraken. Tu prends tout simplement une chance. Il y a des super beaux attributs. Je pense que c'est quelqu'un qui a une chance de jouer dans la LNH. Puis ça ne coûte rien. Tu n'as pas dépensé un choix de repêchage pour le sélectionner, etc. Je trouve que c'est plus logique que les Golden Knights de Vegas qui avaient misé, là, rappelez-vous, sur Reed Duke. Reed Duke, ça avait été le premier joueur de l'histoire des Golden Knights. Lui, j'étais moins emballé. Là, c'est un ancien espoir du Wild, notamment. Là, c'est un ancien choix au repêchage. Lui, il y avait peut-être moins de choses qui étaient glorieuses dans son cas. Mais Lou Kenman, là, je pense que c'est vraiment un beau pari qui va devoir jouer dans la Ligue américaine au départ, mais qui peut se retrouver dans la LNH, honnêtement. Peut-être même plus vite qu'on pense.
Ben, je pense honnêtement qu'il a ce qu'il faut pour aller jusqu'à la meilleure ligue de hockey au monde. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est entre ses mains. Et puis, c'est peut-être une question de contexte également, mais je pense que le contexte de Seattle va être un meilleur contexte que celui que ça aurait été en Caroline, je pense, pour essayer de te tailler une place. Mm-hmm. Je pense que ce sera un peu plus simple dans une équipe d'expansion. Là, on verra comment ça va se dérouler, mais en tout cas, théoriquement, ta banque d'espoir est moins importante dans une équipe d'expansion là, par défaut. Alors, et puis, ben, je pense que Ron Francis aussi, c'est quelqu'un qui le connaissait bien également, parce que bon, il a passé en Caroline également. C'était pas un choix qui était fait à l'aveuglette, comme on dit. Et justement, je pense que ça ajoute du poids à cette décision-là. C'est le fait que c'est quelqu'un qui le connaissait déjà beaucoup et qui s'est dit, OK, ce joueur-là est disponible, je vais en faire le premier joueur officiel du Kraken de Seattle. Parce que lui, il était déjà dans le monde du hockey. Il y en a des centaines de joueurs qu'il connaît. Et il a décidé que c'était Lou Kenman, le premier joueur signé du Kraken de Seattle. Alors, pour moi, c'est un message assez fort. C'est un gars qui est bon dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de facettes du jeu, qui est un leader. Je pense effectivement qu'il a des chances légitimes de pouvoir atteindre la meilleure ligue de hockey au monde.
Et ne sous-estimez pas ça, les gars. Là. Qui a été le premier entraîneur au niveau junior de Luke Edmond? Qui lui a
comme Bouchard?
Joël Bouchard, tout à fait. Joël Bouchard, là, on sait comment il est. Là. Très attentif aux détails. Là, on le voit avec le Rocket de Laval, ça se passe super bien. Donne d'excellentes chances à des travailleurs acharnés comme Raphaël Harvey-Pinard, comme Joël Teasdale, comme un peu tous ces joueurs-là. Puis Luke Edmond, je me souviens que Joël Bouchard l'adorait énormément. Puis c'est lui qui lui a montré ses premières armes dans un calibre plus compétitif, si tu veux. Ça, c'est pas à négliger, là. Qu'une personne comme Joël Bouchard l'aime beaucoup, ça en dit long, je pense, à quel point ce joueur-là peut être fiable pour devenir un bon joueur d'équipe et un joueur qui va cadrer dans un système, ce qui est vraiment important là, pour Joël Bouchard. Ça a toujours été sa marque
de commerce. Je pense que c'est difficile de ne pas aimer un gars comme Luke Edmond, autant d'un point de vue de sa personnalité que d'un point de vue de son jeu sur le hockey. Les deux dernières saisons, il a produit offensivement. Il est en moyenne, si je me trompe pas, là, je suis pas un parfait en calcul mental, là, mais il est bien au-delà du point par match dans les deux dernières années. Et comme je dis, c'est un gars qui est responsable aussi défensivement, qui a des qualités de capitaine. Alors non, c'est difficile de ne pas aimer un gars comme Luke Edmond. Puis quand je parlais de sa personnalité, je reviens sur l'espèce de behind the scenes qu'on a fait. Si les gens veulent aller voir ça, je pense que ça vaut la peine parce que on le découvre vraiment quel genre de personne il est. Là.
Est-ce que je me trompe, là? Je me trompe peut-être avec un autre accès que tu avais eu, là. Est-ce qu'il chante dans la période d'échauffement? Il me semble, j'ai souvenir de ça, il me semble.
Ah ben là, Martin, je vais t'inviter à aller réécouter tout ce qu'on a sur notre chaîne YouTube pour voir si c'est un bon chanteur et si c'est lui qui chantait aussi. Peut-être que oui, peut-être que non, je vais laisser les gens aller le découvrir.
Vos capsules d'espoir sont excellentes, en tout cas.
Ah ben, c'est de la grande qualité, je te dirais.
117 points en 95 matchs pour Luke Edmond lors de ses deux dernières campagnes dans la LHJMQ. C'est pas le seul joueur là, qui a signé avec une équipe professionnelle dans les derniers jours. Sean Elliman a signé avec ce que j'appellerais le Lightning de Québec. Le Lightning qui continue de piger là, dans la cour de la LHJMQ. Bon, on le sait, Elliman joue à Victo, donc est encore là, en demi-finale. Qu'est-ce qui explique que le Lightning, au-delà du fait de Julien Brisebois, aime autant la LHJMQ? Honnêtement, je ne comprends pas cette façon-là du Canadien de Montréal de se laisser dormir le pion par une équipe de la Floride. Et pas les Nordiques, ce n'est pas les Sénateurs, là, c'est le Lightning.
Ce qui est fascinant, et la réponse à ta question, je ne l'ai pas, mais ce qui est fascinant, c'est que les gars qui sont allés chercher comme late bloomer, si on veut, qu'ils ont signé un peu plus tard, il y en a beaucoup là-dedans qui ont atteint la Ligue nationale de hockey. Quand remontons jusqu'à Jonathan Marchessault il y a quelques années, qui a commencé.
Avec Barry Boulet, il voit que c'est comme un coup de patin, ça fonctionne quand même bien jusqu'à maintenant avec le Lightning.
Non, exact. Alors, tu sais, ils ont trouvé le moyen de trouver des espèces de perles rares qui traînaient comme ça. Puis tu sais, je pense, si je ne me trompe pas, Peter Abbandonato, il y a un an ou deux aussi, a signé avec lui, qui était un des meilleurs marqueurs, qui était un des meilleurs marqueurs de la Ligue. Et puis là, ben, Sean Elliman, ben, j'étais super content pour lui. Oui, qu'est-ce que tu allais dire, Martin?
Ben, Jimmy Huntington aussi, c'est un autre Québécois qui est sous...
Avec l'Océanie.
Qui est pour le Crunch de Syracuse avec Benoît Gould.
En tout cas, ils ont réussi à trouver des talents. Je pense qu'ils ont aussi réussi à développer. Et bon, t'en parlais comme Alex Barry-Boulet aussi. Puis moi, je me souviens... On était les trois à TVA quand c'est arrivé, quand il a signé, puis on se posait tous la question, mais peut-être qu'il y a une équipe plus près de chez nous qui aurait pu lui faire signe si Lightning a trouvé quelque chose. Quoique, je pense qu'ils avaient répondu pas longtemps après avec Joel Teasdale, si je me trompe pas, le Canadien, là, qui est quand même pas un mauvais choix non plus. Mais pour revenir à Sean Elliman, c'est un gars qui a produit beaucoup offensivement dans les dernières années. Pendant un bout, cette année, il était le meilleur marqueur de la saison. C'est un gars, on me dit, qui a probablement le meilleur coup d'épaule de la Ligue. C'est un gars qui frappe fort, qui fait mal. Les gars m'ont dit que quand ils pratiquaient avec lui, ils s'attendaient à se faire mal dans le coin. C'est un gars qui a beaucoup d'intensité, qui est un passionné, puis qui est capable de produire offensivement. Je pense que le le club école du Lightning a fait un bon coup avec Sean Léman.
On parlait de Louis Crevier tout à l'heure, Anthony, là, puis là, moi, je te disais, bon, ben, peut-être que les Canadiens avaient leur raison, il y a peut-être des choses qu'ils aimaient moins chez Louis Crevier, etc. Et Sean Léman, parce que ce qu'il faut le savoir, là, c'est que c'est un contrat de la Ligue américaine, là, c'est surtout un contrat avec le Crunch de Syracuse et non le Lightning en soi.
Non, mais quand même, ça reste que c'est un contrat avec l'organisation du Lightning Tampa Bay, ça reste... C'est un bon fait d'arme, là. C'est une bonne marque importante.
Non, tout à fait, je ne dis pas l'importance, mais c'est justement ça mon point. Un contrat de Ligue américaine, tu te compromets moins. Raphaël Harpinard, c'est ce qu'il avait avant il y a une semaine ou deux. Là. C'est ça qu'il avait, un contrat de Ligue américaine. C'est pourquoi il jouait à Laval et regardez la saison qu'il a eue. Et il était rendu sur un premier trio avec Jordan Wheel. Ça en dit quand même long. Et c'est là que je trouve, celle-là, je vais peut-être la pardonner un peu moins aux Canadiens de Montréal. Tu as un Québécois qui joue dans la LHJMQ, qui a des éléments, selon moi, Alex l'a mentionné, selon moi, c'est lui qui frappe le plus fort dans la LHJMQ. Ce que je dis souvent, les gars, une qualité exceptionnelle pour vous permettre de jouer dans la LNH. Lui, c'est son coup d'épaule. Lorsqu'il va arriver dans les coins, là, il va frapper puis ça va faire mal. Pas à peu près dans la Ligue américaine, assurément. Puis je vous le dis, peut-être dans la LNH, parce que justement, il a tellement un bon coup d'épaule que sur un quatrième trio, il pourrait faire le travail puis c'est quelqu'un qui pourrait déstabiliser l'adversaire. On ne sait jamais, les gars, puis je reviens à ça, ça ne coûte rien. Tu ne dépenses pas un choix de repêchage, tu ne te bats pas nécessairement dans des tactiques de négo super, super difficiles. C'est un contrat de Ligue américaine.
Les 50 contrats aussi. Les fameux 50 contrats qu'on a le droit d'attribuer à un joueur, ce n'est pas quelqu'un qui vient rentrer dans cette fraction-là, parce qu'on le sait, c'est une donnée qui est hyper importante pour les équipes. Souvent, quand on fait une transaction, on va repasser un contrat en retour pour ne pas être trop à la gorge. Donc, encore une fois, on ne se menotte pas non plus avec cette variable-là.
Ben non, tout à fait, c'est ça. Puis je reviens à Sean Léman. Son style, c'est un style justement physique qui va être très difficile à affronter. Moi, je trouve que Joël Bouchard à Laval, c'est un style de jeu qui cadre très, très, très bien avec lui. Maintenant, si tu es Sean Léman, puis tu reçois une offre du Lightning de Tampa Bay / Crunch de Syracuse, faut absolument que tu écoutes parce que c'est quand même les champions en titre de la Coupe Stanley. Là. Puis ils ont développé je ne sais pas combien de Québécois dans les dernières années. Si je suis Sean Léman, j'aurais pris la même décision.
Tu exact. Sais que parce que tu viens de le dire, Marquis, c'est une organisation qui se fait une fierté de développer des joueurs du Québec. Donc lui, c'est sûr qu'il se dit, je ne vais pas tomber dans l'oubli. J'ai des chances réelles de progresser dans cette organisation-là. Donc c'est sûr qu'il saute sur l'occasion. Je le comprends parfaitement.
Et je peux vous dire qu'il était content, messieurs, parce que je lui ai écrit... quand c'est arrivé, puis il m'a dit j'avais hâte que ça arrive, puis je suis content de mettre ça derrière moi. Je pense que je suis pas sûr que ses plans étaient faits à 100% pour l'année prochaine, se garder une porte ouverte pour jouer du hockey professionnel, je pense clairement. Et je pense qu'il était vraiment content. Et messieurs, j'y ai mis un micro pendant tout un match. Ça a été tout un spectacle. Je vais monter ça dans les prochaines semaines. C'est un comique, Sean Léman, je peux vous dire ça. Là. C'est un gars qui met de la vie, de l'ambiance dans une équipe de hockey, je vais dire ça comme ça.
On va regarder ça avec grande attention, Alex, ça c'est sûr.
Mais au-delà du joueur puis de son style de jeu, tout ça, là, je trouve que c'est tellement une belle histoire, Sean Léman. Parce que, pour faire une petite histoire, là, lui, c'est un joueur natif de Victoriaville qui jouait avec les Eagles du Cap-Breton au début de la saison. À l'approche de la date limite des transactions, les Tigres de Victoriaville, donc l'équipe de son enfance, l'équipe qu'il a probablement rêvé, pour laquelle il a rêvé d'évoluer probablement toute sa jeunesse, fait une transaction pour aller le chercher. Et là, n'oublions pas les gars, contexte de COVID-19, là, c'est pas comme si tes parents peuvent aller te voir jouer à Batters ou à Rimouski ou à Bécomo. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a aucun spectateur qui est admis dans les gradins. Donc, tout ça pour dire que lui, probablement que sa famille, ses parents, etc., ça faisait extrêmement longtemps qu'il n'avait probablement pas vu jouer, ou probablement même pas vu, si tu veux. Donc, lui, ça devait être une énorme baume au cœur, si tu veux. Ça devait lui faire vraiment chaud au cœur, soudainement, de se retrouver pour l'équipe de son enfance. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, j'ai ressorti une petite histoire. En 2019, il avait reçu une invitation pour le camp des recrues des Blackhawks de Chicago. Le problème, c'est qu'il y a un membre du personnel, il faut que tu envoies des papiers à la Ligue, des formulaires, pour confirmer la participation d'un joueur donné au camp. Mais il y a eu une erreur administrative et la personne a, je ne sais pas si c'est oublié ou il y a eu une erreur au niveau de... du télécopieur ou peu importe. Mais tout ça pour dire que le Formula 1 ne s'est jamais rendu et Sean Elliman, finalement, n'a pas pu participer à ce camp des recrues-là. J'ai ressorti des articles de journaux où il était vraiment abattu. Là, on s'entend que lorsque tu as une occasion, ta première, de te signaler auprès d'une équipe de la LNH, ça fait extrêmement mal. Donc là, c'est tout simplement plaisant à voir que ben, là, soudainement, il y a une chance. Dans le fond, il est récompensé pour ses efforts et d'autant plus avec une très belle organisation qui développe assez bien ses joueurs.
Anecdote d'ailleurs qu'il m'avait raconté dans un quiz de la GMQ que j'avais fait avec lui et Xavier Simoneau. Puis Xavier Simoneau lui avait ramené ça un peu dans le visage en lui disant « Ah ouais, t'étais censé avoir le camp d'entraînement. » Puis finalement, il y avait eu une histoire de papier. Là. Ouais, je disais que Sean Lema, c'est un petit comique, là, mais tantôt, vous aviez Xavier, ça en a un autre petit comique. Là, c'est, vous n'avez pas eu l'occasion de constater son petit côté comique, là, mais c'est un drôle, là, Xavier.
Il aurait fallu que tu ne le fasses sortir un peu. Ça aurait été intéressant.
Je vous le réinviterai. Il est tellement, moi, je le trouve bon en entrevue. Xavier, c'est quelqu'un qui dit le fond de sa pensée. C'est quelqu'un qui tu sais, tu sens pas qu'il te sort la cassette. Tu sens vraiment que ça sort de ses tripes quand il parle. Il parle un peu. Il parle en entrevue un peu comme il joue, dans le fond. Ça vient des tripes. Je pense que c'était pour ça que je voulais qu'on puisse lui parler un peu pour aussi. Puis, tu sais, dans le contexte, on vient de parler de Sean Elliman. De joueurs comme Luke Edmund également, qui a des équipes de la Ligue nationale qui leur ont donné une chance. Je pense que sincèrement, je ne suis pas dépisteur dans la Ligue nationale. Je ne pense pas que je vais l'être un jour. Ce n'est pas dans mes plans de carrière. Puis je ne pense pas non plus que j'ai les skills. Je parle purement comme amateur, je dirais averti d'une certaine manière. Mais je pense que Xavier Simoneau peut aider à tout le moins une équipe professionnelle et peut-être même une équipe de la Ligue nationale. Il y a des gens qui m'ont dit off the record, qu'il pense que Xavier Simoneau va faire son chemin jusqu'à la Ligue nationale comme un gars, comme la comparaison qui revient, c'est souvent Raphaël Harvey-Pinard, c'est logique. Je pense même que Xavier a une petite touche offensive encore un peu plus importante qu'un gars comme Raphaël Harvey-Pinard.
Moi, je suis d'accord. Honnêtement, là, je pense que je trouve que la situation avec Harvey Pinard est un peu différente. Harvey Pinard, c'est quelqu'un qui s'est développé sur le tard. Si je ne me trompe pas, son année de repêchage, il avait une saison vraiment, là, il n'y a rien à souligner. Là, je pense que c'est quelque chose comme 18 ou 19 points en 60 matchs, puis s'est développé par la suite. Mais Xavier Simoneau, ça a toujours été un joueur de premier plan. Choix de premier tour au niveau junior, très bonne saison à 16 ans. 17 ans était dans les discussions pour être repêché, finalement ne l'a pas été, là, parce que de ce que j'ai lu, il y a eu des inquiétudes par rapport à une commotion cérébrale dont il a été victime à 15 ans. Puis ça lui a quand même nuit. C'est un peu bizarre parce que ça datait d'il y a 2 ou 3 ans. Là. Puis au niveau des aptitudes de jeu également, Raphaël Harvey-Pinard manque peut-être un peu de patin. Et on le sait, la LNH, c'est une ligue de patins. Donc là, tu peux dire, ouais, non, je pense que ça va être difficile pour lui de jouer dans la LNH parce qu'il ne va pas être capable de suivre le rythme. Je pense qu'il va suivre. Là, honnêtement, moi, je l'ai déjà dit ici, les gars, je pense que ça va jouer. Il va jouer dans la LNH.
Moi, je pense qu'il va peut-être même jouer plus longtemps que ce que le monde puisse penser. Il y a peut-être beaucoup de monde qui disent « Ah oui, il va atteindre la Ligue nationale. Il ne jouera peut-être pas 300-400 matchs en Ligue nationale. » Moi, je pense qu'encore là, je parle comme amateur averti, je dirais, là, vraiment pas comme expert. Puis je ne veux pas être considéré comme tel non plus parce que c'est pas le cas. Mais je pense qu'il va jouer, il va faire son chemin jusqu'à la Ligue nationale. Et Raph Harvey-Pinard, partout où il a passé, il a été sous-estimé. Et partout où il a passé, il a confondu les sceptiques. Et encore une fois, à sa première année dans la Ligue américaine, je pense qu'il peut dire, puis j'ai pas vu l'essentiel de ses matchs, j'en avais vu beaucoup plus que moi, je pense qu'il peut déjà dire mission accomplie pour sa première année dans la Ligue nationale, puis force est d'admettre que c'est le cas, puisque le Canadien lui a offert un contrat.
Et ça ment pas non plus, puis j'ai pas vu le match d'hier du Rocket de Laval, j'ai justement regardé Saguenay contre Forer, là. Et il y a quelque chose qui ne ment pas que j'y vais après le match, là, parce que pour la petite histoire, il jouait avec Brandon Gallagher hier, Gallagher qui a été prêté pour une remise en forme. Puis Brandon Gallagher a dit après le match, il n'y a pas beaucoup de joueurs sur une patinoire qui travaillent aussi fort que Raphaël Harvey-Pinard. Et là, ça ne vient pas d'un Yoel Armia ou d'un. J'ai beaucoup de respect pour Yoel Armia, mais c'est pas Brandon Gallagher.
Il y a un gars que ça fait 10 ans qu'il est dans la Ligue nationale.
Et non, c'est seulement... un gars qui travaille. C'est surtout ouais,
c'est ça. Non seulement ça fait 10 ans qu'il est dans la LNH, mais c'est justement lui qui a dû confondre les sceptiques. C'est lui qui travaille toujours plus fort que tout le monde sur une patinoire. C'est lui qui est fatigant pour l'adversaire. Alors que Brandon Gallagher dise ça de Raphaël Harvey-Pinard, moi, je pense que ça en dit énormément. Là, ça montre à quel point, lui, il a probablement le cœur plus gros que le centre d'elle encore. Là.
Pensez-vous, et puis là, je sors de mon champ d'expertise, là, mais totalement, là, pensez-vous que il va se retrouver avec le Canadien, peut-être avec les Black Aces ou quelque chose de genre en série? Pourrais-tu se retrouver là?
Ah, je serais surpris pour vrai. Puis... Ben, peut-être de s'y retrouver, c'est une possibilité, mais quand tu regardes le line-up du Canadien, quand tu as un gars comme Jesperi Kotkaniemi, repêché troisième au total, qui ne devrait pas commencer dans le premier match, même chose pour Caulfield, qui a 4 buts en 10 parties, je serais surpris qu'un gars comme RHP soit capable de se faufiler, ne serait-ce que d'accompagner l'équipe. Moi, personnellement, je n'y crois pas.
Même pas comme sur l'équipe d'entraînement, dans le fond. Mais moi, le concept de bulle change un peu la donne parce que tu as un nombre de joueurs peut-être maximum que tu vas pouvoir amener, peut-être. Là,
ben, c'est sûr que. Puis je pense que Marty, tu t'en allais t'opposer à ma réponse, là, puis c'est correct. Là, mais personnellement, peut-être pour l'expérience, peut-être pour pratiquer avec des pros, puis on le sait, le Canadien veut récompenser les joueurs justement qui ont bien performé. Puis je regardais ses chiffres. Il y a quand même 20 points en 36 parties de cette saison avec le Rocket de Laval. Donc, c'est pas à négliger. Ça se peut comme Black Aces. Mais moi, je serais surpris.
Mais moi, c'est ce que je m'en allais dire. Je pense que si tu vas envoyer une espèce de message positif à tes jeunes qui sont à Laval, là, je vais prendre un exemple. C'est pas un jeune, c'est un vétéran. Là, mais un joueur comme Yannick Veilleux, par exemple, qui peut regarder les joueurs qui ont peut-être de plus haut statut. Puis là, tu te demandes, est-ce que ces joueurs-là vont avoir une chance de signaler dans la LNH ou peu importe. Puis, est-ce que je dois travailler? Est-ce que je dois travailler fort? Est-ce que ça va en valoir la peine? Bien, je pense qu'en invitant un Harvey Pinard qui a travaillé fort toute l'année, et c'est même pas une cachette, là, qui est probablement un des joueurs préférés de Joël Bouchard, sinon son joueur préféré avec le Rocket.
Il va être le joueur préféré de n'importe quel entraîneur. C'est impossible. C'est tellement... Il a le profil parfait pour être un joueur préféré. Si Brandon Gallagher pense qu'il n'y a pas un gars qui travaille plus fort que lui sur une glace... Ça en dit long.
Là. Non, c'est ça, exactement. Mais tout ça pour dire que... c'est moi, je pense que pour le récompenser, pour envoyer un message à tes autres jeunes de l'organisation, pourquoi pas l'amener justement avec les Black Aces? Puis les Black Aces, c'est tout simplement d'être dans l'environnement des professionnels, voir comment ils se comportent, puis pratiquer avec les autres jeunes de l'organisation. Est-ce qu'il va jouer un match en série? Il y a 0% de chance qu'il joue, à moins qu'il y aurait des blessés, là, mais sinon, il ne jouera pas en série. Mais pour le reste, pour lui faire voir une expérience, moi, je pense que ce serait une très bonne idée de l'amener avec les Black Aces, ne serait-ce que pour justement voir comment les vétérans comme Toffoli, comme Anderson, comme Brandon Gallagher se comportent en série.
Au moment d'enregistrer ce podcast, c'est une nouvelle de dernière minute. Là, on verra à quelle heure on le met en ligne là, un peu plus tard au courant de la journée. Mais l'Alliage JMQ, je sais qu'on dévient un peu là, de notre sujet prospect, mais l'Alliage JMQ vient d'annoncer que Guy Lafleur, son numéro 4, va être attiré à travers la Ligue. Alex, un bon coup, ça, quand même. On le sait, Guy Lafleur là, a marqué les esprits. Un bon coup pour la Ligue, surtout quand ça va être une saison qui risque d'être beaucoup plus normale avec des partisans, de mettre un peu d'engouement là, pour la saison 2021-2022.
Oui, ben je pense que ça allait de soi. Il y a quelques au début de la saison passée, on avait retiré le chandail de Sidney Crosby. Guy Lafleur avait été considéré et voté comme étant le meilleur joueur de l'histoire de la LHMQ lors du 50e anniversaire. C'est une légende non seulement de la LHMQ, mais du hockey en général. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire, le point. Et son passage dans la LHMQ n'a pas fait exception. Et puis, c'est un honneur bien mérité pour une légende qui continue d'avoir le hockey tatoué sur le cœur. Son chandail va être retiré au début de la saison prochaine pour toute la Ligue. Le numéro 4 ne pourra plus être porté dans un amphithéâtre de la LHMQ.
Merci beaucoup, Alexandre Gimbal, journaliste à la LHJMQ, expert en la matière, d'être rejoint à nous. Encore une fois, très apprécié. C'était encore une fois bien agréable. Merci à toi aussi, Marty, pour un autre beau podcast. Nicolas Cloutier ne pouvait pas y être cette semaine. Il y sera la semaine prochaine pour se joindre à nous pour une autre édition du podcast Le Relève. Un dernier mot, messieurs, en terminant.
Ben merci, merci pour cet épisode de presque 100% LHJMQ. Merci de suivre nos espoirs. C'est tellement un beau produit, la LHJMQ, messieurs. Pour le monde qui n'a pas l'occasion d'en voir régulièrement, c'est tout un spectacle, non seulement d'un point de vue hockey, mais c'est une façon aussi de voir les espoirs de près, les joueurs que vous allez voir évoluer dans la Ligue nationale éventuellement. Et je souhaite fortement que les partisans puissent réintégrer les arénas pour la saison prochaine ou le plus tôt possible, du moins, pour qu'ils puissent voir ces jeunes-là évoluer et avoir tout un spectacle à un prix qui est plus que raisonnable.
Et je veux en profiter, on l'a déjà fait, mais remercie Xavier Simoneau également pour sa gentillesse, pour sa disponibilité. Ça a été, je pense, super intéressant de pouvoir voir à quel point on a pu voir le caractère derrière le joueur, si tu veux, ce qui a été intéressant. Et puis d'autant plus, on parlait d'Harvey Pinard. Ben écoutez, moi j'ai l'impression que Xavier Simoneau, dans la prochaine année et demie ou dans les deux prochaines années même, là, je pense que les amateurs au Québec vont peut-être commencer à dire, écoutez, on va commencer à en parler comme on parle d'Alex Barré-Boulay ou de Yannick Gourde ou de Jonathan Marchessault, comme un joueur non repêché que le Canadien a peut-être... Ben, en tout cas, il peut signer avec les Canadiens aussi, là, mais qui aurait peut-être mérité une chance, si on veut. Là.
On lui souhaite à Xavier. Je le souhaite à tous les joueurs, mais je pense qu'un gars comme Xavier le mérite sincèrement.
En mon nom personnel et en celui de mes deux camarades, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Ciao tout le monde.